Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'évangile que je viens de lire s'appelle, dans la tradition, la prière sacerdotale du Seigneur. L'Église nous fait lire cette péricope lors du Jeudi Saint. Si vous vous en souvenez, on a lu une longue succession d'évangiles, elle était dedans. Et aussi aujourd'hui, lors du dimanche des Saints-Pères du Premier Concile. Et donc, comme ce dimanche est dédié à nos saints-pères Théophore, je ne pouvais pas ne pas faire quelques références à l'exégèse patristique, c'est-à-dire comment les pères de l'Église ont lu ce passage et lisent en général les Écritures. Première leçon que nous donnent nos saints-pères, contextualiser le texte, essayer de voir ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, quelle est la logique dans laquelle Jean l'a écrite. Saint Jean Chrysostome, dans son homélie 80, fait cet exercice de contextualisation. Il nous dit « Cela vient après Jean 16, 33 », parce que cette péricope, c'est Jean 17, de 1 à 23, il me semble. En 16, 33, il dit « Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, moi j'ai bel et bien vaincu le monde. » Et ensuite, il fait cette prière. Donc cette prière, elle a une relation avec la souffrance que ses disciples vont devoir affronter. Saint Jean Chrysostome écrit « À cet avertissement, il fait succéder la prière pour nous apprendre à tout quitter pour recourir à Dieu seul au milieu de nos tribulations. » Ensuite, il cite l'Écriture « Ayant dit ces choses-là, Jésus leva les yeux au ciel. » Ensuite, il y a cette prière-là. Et à la fin de la prière, il est arrêté. Nous sommes donc le Jeudi Saint. Ensuite, nos saints-pères nous ont appris à interroger le texte, à le questionner, le prendre comme une parole pleine de mystère. Le bienheureux Augustin demande dans son 105e traité sur Saint Jean, 105 traités sur Saint Jean, « Comment le Fils a glorifié le Père puisque la gloire du Père n'avait pas connu d'amoindrissement ?» Il répond que l'amoindrissement était dans le regard de l'homme. Chez ceux qui n'ont pas reçu l'enseignement de l'Église, l'union entre Dieu et l'homme est vue comme un amoindrissement de la nature divine. Et ce que répond la théologie orthodoxe, c'est que Dieu n'a rien perdu dans l'incarnation. Ceux qui n'arrivent pas encore à l'apercevoir ne savent ni qui est Dieu ni qui est l'homme. Nos saints-pères se sont servis des versets de l'Écriture pour démontrer la théologie de l'Église. Saint Hilaire de Poitiers, donc un grand saint français, qui a été un des deux plus grands combattants face à l'arianisme avec Saint Athanase, écrit dans son 4e traité sur la Trinité, « Les Ariens, donc les Ariens, ce sont des gens qui considèrent que le Christ n'est pas Dieu. C'est une sorte de Superman, mais pas Dieu. » Les Ariens prétendent que le Père seul est le seul vrai Dieu, le seul juste, le seul sage, et ils excluent le Fils de toute communion à cette divine perfection. Les choses qui sont propres à un seul, disent-ils, ne peuvent être communiquées à un autre, si donc ces attributs se trouvent dans le Père seul. La conséquence est que le Fils n'est point véritablement Dieu, et que c'est à tort que l'on lui donne, qu'on lui en donne le nom. Pardon. Alors que, et donc Saint-Hilaire utilise cette prière sacerdotale pour rapporter ce qui sinon serait une assertion complètement folle. Tout ce qui est à toi est à moi. Qui peut dire à Dieu, tout ce qui est à toi est à moi, sinon Dieu ? Les saints-pères utilisent l'Écriture pour en déduire des comportements. Saint Cyril d'Alexandrie, dans son commentaire sur Jean, le 11e, 3e chapitre, écrit « Lorsqu'une occasion est propice à la prière, il est indiqué pour nous de prier afin d'augmenter la gloire de Dieu, bien avant que ce qui peut nous concerner nous-mêmes. Ainsi, le Sauveur lui-même demanda la glorification au Père, de façon à ce que le Père puisse être glorifié dans sa descendance. » Ils nous ont aussi appris à éviter les pièges des fausses évidences du texte. Hein, il y a ce verset où on nous dit « Ils te connaissent ». Alors c'est quoi la connaissance de Dieu ? Saint Cyril d'Alexandrie toujours avertit sur la nature de la connaissance de Dieu qui donne la vie éternelle. Il cite d'abord Isaïe 7:9 « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. » Et ensuite, il cite un verset assez connu de l'épître de Jacques 2:19 « Vous croyez que Dieu est un ? Vous faites bien, même les démons croient. » Et Saint Cyril ensuite explique qu'il s'agit d'une connaissance eucharistique, c'est-à-dire corporelle, faite de chair et de sang, une connaissance d'expérience, une connaissance charnelle, pas une connaissance intellectuelle, de raisonnement logique. Une connaissance qui est tirée de l'expérience. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, et des gens qui savent que Dieu est. Vous voyez la nuance ? Scrutez sans faux semblant chaque mot. Il y a trois mots qui sont importants dans cette prière sacerdotale et qui sont un petit peu durs à cerner théologiquement. Glorification, sanctification et le nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est le nom de Dieu ? Alors la glorification, c'est le fait d'augmenter la gloire. La gloire en hébreu, c'est le kavod, c'est le fait d'être lourd. Et la première fois qu'on rencontre ce mot dans la Genèse, c'est en Genèse 13:2, ça concerne Abraham. Il est descendu en Égypte alors qu'il y avait une famine, et quand il en revient, il est riche, très 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 riche. Et le texte dit « il est lourd, il a du kavod, de bétail, d'argent et d'or ». Sa gloire est matérielle, et il revient avec son neveu. Et son neveu, que fait-il de cette gloire matérielle ? Il va dans la ville de Sodome. Et que fait Abraham ? Lui, il élève un autel. Donc la gloire, elle a à voir avec le rapport qu'on a à la matière, vis-à-vis de Dieu. La glorification, c'est ça. La glorification, c'est comment on utilise la matière qui vient de Dieu pour la rendre à Dieu. Alors, si je peux prendre une image aujourd'hui, on va dire que Lot, il aurait été à Las Vegas, s'amuser dans les casinos avec des filles et tout ça. Et Abraham, lui, il aurait fait quelque chose, une fondation de charité pour aider des enfants ou des femmes seules ou que sais-je, vous voyez ? C'est la même. Hein. Ils ont le même potentiel au départ. Mais après, qu'est-ce qu'ils en font ? Ensuite, il y a la sanctification. La première fois qu'on rencontre la notion de sanctification dans la Bible, c'est pour le septième jour. Le septième jour est saint. C'est le Shabbat. Et il est différent des autres. Le saint, c'est celui qui s'extrait de ce qui est commun pour se rapprocher de Dieu. Parce que le septième jour, c'est celui qui est juste avant le huitième, celui de la résurrection. Donc c'est celui qui est vraiment à la frontière de Dieu. Alors c'est quelque chose qu'on a perdu un petit peu dans la langue française, mais saint, kadosh en hébreu, ça a donné kiddushin, le mariage. Quand on se marie, on devient saint l'un pour l'autre. C'est-à-dire que l'homme est séparé de toutes les autres femmes qu'il aurait pu éventuellement épouser, et la femme est séparée de tous les autres hommes qu'elle aurait pu éventuellement épouser. Ils se retirent de tous les autres pour eux vivre une union qui est de la sainteté. Donc la sainteté, c'est le fait de se séparer, sans se différencier des autres. Car le septième jour est saint, mais les six autres jours sont des jours. Mais lui, il est saint. Et enfin, le nom de Dieu. Alors, vous en connaissez plusieurs des noms de Dieu. Vous avez dans la Bible Elohim, vous avez le tétragramme imprononçable. Vous avez Yah, quand on dit Alléluia, on dit le nom de Dieu. On a El, on a Shalom. Quand on dit Shalom, on dit le nom de Dieu. C'est un des noms de Dieu. On a le Makom, le lieu. On a Shaddai. Nous, on sait qu'on a Yeshua, qui est un des noms de Dieu. Et l'ultime nom de Dieu que nous a appris Jésus, justement, c'est Père. Dieu, pour nous, est un Père. Alors, le Christ est montré aux Juifs par Paul, dans son épître destiné aux Hébreux, comme grand prêtre. Alors, le grand prêtre, il a une fonction seulement un jour de l'année. Et c'est extrêmement lié à cette prière sacerdotale, c'est pour ça que je vous en parle. C'est lié à la liturgie de Kippour. Donc, si vous connaissez Kippour, c'est le jour du grand pardon, qui est devenu, chez les Juifs, le jour le plus important. Le grand prêtre, ce jour-là, rentre dans le Saint des Saints, à l'intérieur du temple de Jérusalem, asperge avec le sang d'un bouc qui a été sacrifié à cet effet, asperge le rideau avant de rentrer dans le Saint des Saints, et il va faire trois prières. Une pour lui, une pour sa famille, et une pour le peuple tout entier. Et si vous relisez la prière sacerdotale, le Christ parle d'abord de lui, ensuite il parle de ses disciples, qui sont sa famille, sa vraie famille telle qu'il l'a définie dans l'Évangile, et ensuite il parle de tous ceux qui sont appelés à devenir disciples, c'est-à-dire le peuple qui n'est pas encore disciple. Donc on voit que dans cette prière sacerdotale, bien qu'il ne soit pas dans le Saint des Saints, il prend le rôle du grand prêtre et fait cette prière de Kippour. Et alors là, simplement, il manque une chose, c'est la bête qu'on va sacrifier. Et bien ce qui est très paradoxal et ce qui est montré par Paul dans son épître aux Hébreux, c'est qu'il est à la fois le grand prêtre de la liturgie de Kippour et il est l'agneau qu'on sacrifie. Il est le prêtre et l'animal sacrifié. Donc on prenait deux boucs. Il y en avait un, deux boucs absolument identiques. Il y en avait un donc, qui était sacrifié pour le Saint des Saints, pour ce Kippour. Et il y en avait un autre qui était renvoyé dans le désert, ce qui a donné l'expression bouc émissaire, le bouc envoyé dans le désert, et qui était, l'écriture dit, pour Azazel, donc pour les démons. Alors le fait que les deux boucs soient absolument identiques, hein, ça n'en finit pas de nous interpeller. C'est le Lévitique 16, 30, 31 qui institue ainsi la fête. « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un Shabbat shabbatique. Hein, » j'ai pris vraiment le littéral, donc un repos sabbatique. « Et vous jeûnerez. » C'est une loi perpétuelle. Et donc vous serez délivrés de tous vos péchés, mais il faut qu'on recommence sans cesse. Vous voyez le paradoxe ? Alors que ce que dit Paul aussi dans son épître aux Hébreux, ce qu'a fait le Christ, c'est fait une fois pour toutes, et là c'est terminé. Alors bon, c'est très bien de retrouver ces choses dans l'Ancien et le Nouveau Testament, de faire des liens, mais bon, quel est l'intérêt dans la vie courante pour nous aujourd'hui ? Et bien ça nous apprend une chose très précise qu'on oublie peut-être souvent, c'est l'ultime dévoilement de la relation qu'il y a entre le sacrifice et la contrepartie. C'est-à-dire que le Christ dit vous allez beaucoup souffrir, mais je vais faire une prière pour que le Père vous accompagne dans cette souffrance. Donc vous allez être accompagné. Et pour ça, il faut qu'il y ait un sacrifice. Maintenant, inverser la proposition. Quand on vous donne quelque chose, c'est qu'on attend de vous que vous sacrifiez quelque chose. Parce que ça, c'est un mécanisme du monde. Que même les forces, on va dire, antagonistes à l'Église, sont obligées de respecter, puisque c'est le paradigme du monde. Donc, quand elles vous donnent quelque chose, c'est qu'elles vous prennent quelque chose. Et ça, vous pouvez le lire dans absolument tout ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Alors c'est vrai de toute éternité, mais je vais prendre un exemple simple, trivial, les vacances. Vous vous dites, les vacances, ça c'est un truc positif. On me donne des vacances pour que je puisse souffler. Non, on vous a donné des vacances pour que vous puissiez tenir dans une façon de vivre qui est le contraire de ce qu'on vous demande, enfin de ce pourquoi vous avez été fait. Si vous n'aviez pas de vacances, vous ne pourriez pas tenir et ce système s'écroulerait. Donc on vous a donné des vacances pour ça. On vous a donné une contrepartie. Quand on vous donne quelque chose, c'est qu'on vous a demandé de sacrifier autre chose. Donc on vous a donné 5 ou 6 semaines, je ne sais plus. 5. Donc pour vous avoir sur les 47 autres. C'est comme ça que vous devez voir la relation entre la contrepartie et le sacrifice. Et vous pouvez le faire sur tout. Vous pouvez le faire sur l'école. Il y a des systèmes en place où on peut donner ses enfants pour qu'ils apprennent des choses. Mais ils vont apprendre tout sauf ce qui est essentiel. Contrepartie, sacrifice. Parce que c'est notre rôle que nos enfants apprennent des choses. Alors on ne peut pas leur apprendre non plus toutes les sciences, tout ce que vous voulez, mais Vous comprenez ce que je veux dire? Vous pouvez le faire sur l'argent, vous pouvez le faire sur tout. Alors, comment on s'en sort de ce système-là? C'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais il faut la mener à un niveau d'incandescence. Parce que le christianisme a toujours témoigné deux voix un petit peu contradictoires. Une voix un petit peu, on va dire, révolutionnaire, rebelle, incarnée par le Christ qui chasse les marchands du temple. Là, c'est plus possible, on se rebelle. Et puis, il y a la voix de Paul, dans un texte, qui dit « Si les autorités sont les autorités, c'est qu'elles viennent de Dieu. Continuez, faites ce que vous avez à faire. » Et comment est-ce qu'ils ont renversé l'Empire romain? Ben, c'est parce que l'Empire romain était devenu chrétien, donc ils ne pouvaient pas faire autrement que de valider le fait que nous avions pris le pouvoir. Alors comment l'Empire romain est-il devenu chrétien? C'est quand tout le monde s'est converti. Et quand comment tout le monde s'est converti? C'est le livre des Actes qui nous montre comment faire de la mission. Comment les gens se sont convertis? Parce qu'ils ont rencontré des gens qui étaient absolument extraordinaires. Donc on n'a pas à se torturer le cerveau de créer des nouveaux systèmes politiques, des machins, des trucs, dont il sortira jamais rien. Soyons des chrétiens accomplis. Et les gens vont nous voir et ils vont dire « mais je veux être comme lui, c'est absolument extraordinaire d'être comme lui ». Aussi simple que ça, les gens, pourquoi Paul ça marchait? Sauf chez les juifs, mais bon ça c'est un problème compliqué. Pourquoi Paul? Et parce que quand on voit Paul, on se dit « mais c'est... ce type-là est absolument vrai, je veux être comme ça ». C'est comme ça que ça marche. Et donc, à nous de devenir... Théophore, à nous de devenir des temples du Saint-Esprit, il faudrait que quelqu'un qui ne connaisse pas du tout le christianisme, quand il arrive là, quand il voit une liturgie, imaginons qu'il soit... que la musique est quelque chose d'important pour lui. Il va entendre cette musique-là, il va se dire « mais c'est la musique qui parle du seul truc important, le reste n'a pas d'intérêt ». Il va vouloir venir là. Donc à nous de travailler la musique pour qu'elle arrive à ce niveau d'incandescence-là. Imaginons quelqu'un qui travaille dans le théâtre. Donc il est spécialiste des mises en scène et tout ça. S'il voit la Semaine Sainte, il faut qu'on arrive au niveau d'incandescence liturgique où il puisse se dire « mais j'arrête Shakespeare ». Là, il y a la dramaturgie ultime de toute l'histoire. Là, c'est le centre de tout. Tout ce qu'il y avait avant pointe vers ça et tout ce qu'il y a après ne parle que de ça. Il faut que quelqu'un qui soit expert en, je sais pas, en philosophie vienne et quand il écoute les textes des pères de l'Église se dise « waouh ». Vous voyez? Il faut qu'on monte le niveau pour retrouver, alors je ne dis pas qu'on est mauvais par rapport à ce qu'il y avait avant, mais s'ils ont réussi à faire en sorte que tout le monde devienne chrétien alors que être chrétien c'était être condamné tous les 20, 30, 40 ans, c'est que ça devait être absolument irrésistible de devenir chrétien. Il faut qu'on retrouve un christianisme qui pousse les autres à se dire « je veux vivre comme ça ». Pour arriver au moment où, comme Paul, souhaitons-le, on pourra dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Le fait de pouvoir se dire que, effectivement, le Christ est l'alpha et l'oméga de ma vie. Car c'est le Christ qui doit être la boussole de notre existence.